Bonsoir à toutes et à tous, on règle nos micros dans les nouveaux studios, on est ravis, c'est tout gris, c'est tout beau. Et on est aussi ravis de vous accueillir dans Parlez-t-on qui court, une heure tous les soirs avec un ou une artiste. Ce soir, Issam Krimi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlait-on qui court.
Marie Richeux avec Issam Krimi.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Aujourd'hui, les urbanistes inspirés cherchent à inventer ou réinventer des endroits de ville où l'on se retrouve. Et puis, on dépense une énergie folle à se demander où est le peuple et qu'est-ce qui est vraiment populaire. Les institutions culturelles, tout autant qu'elles sont, rêvent de diversité, de mixité, rêvent de la croisée des chemins, du rassemblement. Et puis, il y a celles et ceux qui pensent que cela passe moins par le mélange que par l'éclatement des définitions et des cases. Et vous faites probablement partie de cela, Issam Krimi, autant dans la manière dont vous abordez depuis toujours la musique et son enseignement, qu'à travers les projets auxquels vous participez ou que vous initiez, comme par exemple, et pour ne citer que Radio France, les concerts hip-hop symphoniques, la fiction Gatsby magnifique pour France Culture, et tout bientôt, au Festival d'Avignon pour France Culture encore, une mise en onde du texte de Wajdi Mouawad, La mort d'Achille, une fiction avec Sofiane, réalisée par Alexandre Planck. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Issam Krimi.
Merci de l'invitation.
La liste est évidemment non exhaustive, puisque vous faites aussi juste des disques, comme tout le monde, et on écoutera tout à l'heure un extrait de Post Jazz, un album qui était paru sur le label Mélis. Mais d'abord, on va, j'allais dire le boss, l'un des boss.
Have a sound that other trumpet players don't have, because the sound that I like when I was 12, 13 is a round tone. That's the reason when I played Flight of the Bumblebee and Carnival of Venice, I had to play like Harry James. That's a white sound. But the sound that I have, the Japanese people recognize it as soon as I hit it. If I'm not on stage and I warm up or something, they can hear the sound. Because there's a lot of good musicians that aren't, you know, that don't play. People walking around and can memorize. And they recognize my sound, like Frank Sinatra's voice or James Brown, you know. You know who it is. It's the sound.
1986, la voix de Miles Davis, qui dit que quand il avait 12-13 ans, il cherchait un son rond, il cherchait à jouer comme Harry James, il cherchait une sorte de son blanc. Et puis maintenant, et on est en 1986, soit 5 ans avant sa mort, maintenant il suffit qu'il répète au fin fond d'une salle, il est reconnu même par les Japonais, parce qu'il y a, selon lui, plein de musiciens qui ne font pas de musique. Et puis, il y a des gens qu'on reconnaît juste avec le son. Alors, on ne choisit pas Miles Davis par hasard pour commencer cet entretien avec vous, Issam Krimi. Mais peut-être aussi pour vous poser la question de la recherche du son ou la manière dont un son peut définir quelqu'un. Est-ce que ça vous parle dans la manière dont vous êtes dans la musique ?
Complètement, parce que je pense que c'est peut-être mon seul sujet, même dans les choses très différentes que je fais. En fait, le son, la particularité du son, c'est qu'on arrive à avoir son son, je l'entends et je le pense comme c'est le moment où on est soi quand on fait de la musique. Et dans ce que dit Miles, il parle du fait de reconnaître son son. Je pense qu'on reconnaît le son parce que c'est le sien. C'est le sien, c'est comme on a des amis, on a des gens qu'on rencontre dans la rue, même un inconnu, on va avoir quelque chose, on va pouvoir l'identifier, même si on a par exemple, moi j'oublie très vite les prénoms, mais j'oublie pas un aspect global des gens, et je pense que ça c'est quelque chose qui est très très communicatif, ça a pas de langue, C'est ce qu'il y a de plus humain, parce que si on est plus soi, c'est-à-dire qu'on est aussi plus les autres. Et c'est vrai que cette notion du son, je l'ai appris beaucoup avec Miles, mais c'est vrai que mes oreilles ont tendance à aller chercher ça, plus que la technique, l'esthétique musicale. Voilà.
Mais d'aller le chercher pour vous, pour trouver votre propre son à vous, ou aussi d'être à la recherche de ça chez les autres, c'est-à-dire de se dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens, ils sont aussi profondément eux-mêmes en faisant de la musique.
Alors moi, je sais que je préfère, j'ai un plaisir, j'ai un épanouissement personnel quand je suis en train de jouer, que j'ai l'impression que c'est vraiment moi, c'est vraiment mon son.
Arrive souvent.
Ça arrive. J'essaye de faire en sorte. J'organise ma vie pour faire en sorte que ça arrive le plus souvent. Après, ce qui est amusant dans la musique, c'est qu'on n'est jamais seul. Faire de la musique, c'est aussi l'écrire, c'est la jouer avec d'autres, c'est être produit, c'est être dans un contexte qui peut être la scène ou le studio, c'est être dans une société. Je pense aussi que faire de la musique en France, c'est pas la même chose qu'en faire en Guinée. Donc il y a beaucoup de paramètres, mais c'est vrai que le moment de vrai plaisir personnel ou par exemple dans quelque chose que j'ai écrit, un bon moment dans Gatsby ou dans le hip-hop symphonique, c'est des moments pour moi où je me dis bah c'est ce son-là que je veux, c'est ce son-là qu'on a réussi à faire. Donc c'est pour moi très très important, mais c'est vrai que c'est profondément important et c'est en même temps ce qui est mon plaisir aussi total à écouter les autres. C'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un où je me dis oula,
il a sa juste place.
Voilà, c'est lui ou c'est elle. C'est vrai, j'ai un vrai bonheur là-dessus. Voilà.
Avant qu'on revienne à ça, parce que c'est aussi la spécificité de la manière dont vous êtes dans la musique, ça m'est venu un peu comme naturellement comme formule, mais c'était une façon de dire à la fois vous en composez, vous en jouez, vous en produisez, vous imaginez des rencontres. Donc c'est un peu un bain, quoi. Vous êtes dans la musique,
oui.
Sam Crémy.
Oui, en fait, c'est vrai. Après, bon, c'est quelque chose. Enfin, si on enlève la musique, je sais pas ce que je ferais. Donc, il y a toujours cette problématique là personnelle. J'y suis peut-être trop. Enfin, bon, après ça, on rentre dans un intime que je vais préserver. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'amusant dans la musique. C'est sa part sociale et non sociale. C'est-à-dire que et j'aime bien les deux. Et dans sa part sociale, c'est ce côté de rencontre avec qui on le fait, de mettre un orchestre symphonique de prestige avec des rappeurs, de faire rencontrer Wajdi Mouawad et Sofiane. Je veux dire, ça, c'est une part sociale que j'aime énormément et que j'ai pas envie de m'en priver. Et puis il y a la part non sociale qui est pour moi Je sais pas si c'est le plus puissant en fin de compte. Hein. J'avoue que à titre personnel, je n'ai pas tranché là-dessus, mais c'est peut-être il y a quelque chose de plus transcendant, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici, l'émotion qu'on peut créer là, avec qui on est là où on est, bah peut aller toucher, comme dirait Miles, le japonais au fond de la salle, quoi. il y a quelque chose, voilà, et ce que je trouve très beau, même. Moi, je viens d'une famille où il n'y avait pas beaucoup de musique, ou même il n'y avait pas de musique classique du tout. Enfin, en tout cas, il y avait une musique particulière. Après, ce qui a été du jazz et de la musique classique, c'est vraiment une découverte personnelle. Et quand le jazz et la musique classique est arrivé dans mes oreilles, je peux dire sans problème que ma vie a été différente après, quoi. Donc,
oui, d'ailleurs, voilà. Vous avez dit, j'ai appris des choses avec Miles Davis, comme s'il y avait eu vraiment quelque chose, de l'ordre de la transmission puissante, par le seul médium de la musique, mais juste par curiosité, il y avait quoi comme musique chez vous ?
Il y avait plutôt, alors, je vais cafeter, mais mon père avait une passion pour la country.
Il faut tellement cafeter ce genre de choses, c'est hyper joyeux.
Et sinon, après, quelque chose de très fort, et d'ailleurs, j'en ai fait un album, un an après la mort de mon père, il y avait une passion très très forte sur Brassens et Barbara. Et notamment Barbara, j'ai un souvenir de mes parents, de rentrer, mais avec une émotion que j'avais jamais vue chez eux, d'un concert de Barbara. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Voilà.
Mais alors, on voit ses parents rentrer d'un concert de Barbara. On les regarde et on se demande qu'est-ce qu'ils ont vu. Est-ce que bien des années plus tard, Issam Crémy, vous sauriez dire qu'est-ce qu'ils ont vu au fond ?
ils ont peut-être vu ce que n'importe qui peut chercher en étant touché par l'art. Enfin, il y a quelque chose au niveau de l'humanité. Moi, c'est ce fameux mélange, enfin, que je retrouve en musique parce que c'est quelque chose que je sais faire, hein, même si j'ai beaucoup de sensibilité pour d'autres arts et me nourrissent peut-être plus que la musique. Ça sera un autre sujet, mais c'est ce moment de grâce où la sensibilité est liée à son expérience personnelle, est liée à ses connaissances personnelles. Peut-être aussi, ce qui est souvent intéressant dans l'art, c'est on est fait de codes sociaux, et puis on va peut-être dériver parce que l'art nous a fait dériver sur autre chose, quoi. On peut être dans des sociétés très restrictives et quand même avoir cette aspiration à des choses qui le sont moins et à vouloir ou même à rêver le monde. À se dire, bah, j'ai envie que le monde soit différent, soit comme ça, et en fait, rien qu'écouter un bon morceau, une bonne chanson, on se dit, bah, ah oui, mais en fait, c'est possible.
On dit pas free jazz, complètement par hasard, Issam Krimi. Quand vous dites, Miles Davis, c'est un virage vraiment, ma vie a changé, est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui a changé dans votre vie?
Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu quelque chose, on va dire, très terre à terre. C'est-à-dire que au conservatoire, j'étais en classique. Je viens d'une époque où il n'y avait pas encore tous les départements de jazz. Donc, la découverte du jazz, et notamment par Miles, par Herbie Hancock, par Keith Jarrett, c'est j'ai le droit d'aimer et jouer. Ce qui est pas l'enseignement.
D'y prendre du plaisir.
D'y prendre du plaisir. C'est-à-dire la notion de plaisir, je l'ai appris par le jazz. C'est-à-dire que le conservatoire français, alors il change un peu, hein, aujourd'hui, est quand même un conservatoire qui est basé sur la douleur et sur une sorte d'exclusion par
endurance.
Par condescendance intellectuelle. Vraiment, il y a quelque chose comme, et c'est très français, hein, et d'ailleurs c'est très marrant, même historiquement, les grands traités d'harmonie qu'il y a eu dans l'histoire de la musique classique, les plus restrictifs, les plus réacs, sont français. c'est hyper drôle, ça. Et les plus ouverts, ou à un moment quand Schoenberg il casse la machine et il dit bah attendez, on va un peu reposer les choses différemment, ça vaut le coup. Il y a pas de français qui font ça. Donc il y a cette habitude là, et moi je dois avouer que j'ai été élevé là-dedans, que j'ai appris la musique comme ça. Et quand un jour je découvre le jazz, je découvre déjà qu'on peut improviser. C'est-à-dire que ce que je faisais plus ou moins, mais sans trop oser, parce que mon prof me l'interdisait, enfin sans me l'interdire, mais en gros, en dehors de la partition, il y a rien. Tout d'un coup, il y avait le droit. Il y avait le droit aussi d'être dans quelque chose où on peut s'inspirer de toutes les musiques. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. Le jazz, et c'est ça. C'est, enfin, là, pareil, la part sociale, c'est on amène un continent dans un autre continent, et la force qui a été des Africains devenus Afro-Américains, c'est d'avoir eu ces oreilles ouvertes, ce cœur ouvert, et puis d'inventer le jazz. Quoi. Enfin, moi, je trouve que cette histoire-là, déjà, même avant même d'écouter une note, elle est émouvante. Donc le jazz m'a apporté ça, m'a apporté ce plaisir sur mon piano. J'avais arrêté le piano, je m'étais mis à la guitare électrique et voilà, et je suis revenu au piano parce que j'ai découvert le jazz. Et puis après voilà, c'est les pages musicales, enfin quand je dis les pages sonores, je devrais dire, mais que je trouve sublime, qui me touche, parce que on était sur le son au début, mais quand Duke Ellington dit je peux pas écrire ma partie de saxophone tant que je sais pas quel est le saxophoniste qui le joue, c'est aussi ça. Et c'est marrant parce que là-dessus, le classique a perdu ça, parce que l'écriture a donné une distance sur l'humain. Mais la réalité de Mozart, de Bach et de tout le monde, c'est que c'était lié aux humains.
Alors on le retrouve avec des grands interprètes. Simplement, on n'écrit plus pour eux.
Exactement. Mais c'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant dans la musique classique aujourd'hui, c'est que il y a vraiment cette conscience dans la nouvelle génération, en tout cas de musiciens, où en tout cas c'était très conscient chez les grands interprètes historiques, c'était cette part d'humain qui revient. Et moi, je le vois aussi, j'ai beaucoup de mes amis qui ont continué dans le classique, qui sont devenus des grands musiciens classiques, ou des musiciens aussi, de grands musiciens de l'orchestre de cette maison. Mais on voit dans le parcours, dans ceux qui sont après pris le choix d'être soliste, et voilà, c'est vraiment ceux qui ont eu ce déclic là
de la profonde singularité qui fera leur son, qui fera leur touche, quoi.
C'est ça. Et ça, par contre, pour un musicien français, voilà, c'est beaucoup plus dur à trouver, parce que l'organisation de la formation, de l'éducation musicale à Sud n'est pas du tout faite comme ça. Et certains grands interprètes français qu'on a dans la musique contemporaine vivent pas vraiment en France. Donc c'est une chose curieuse de ce pays avec pourtant beaucoup de qualités.
J'ai commencé par parler de justement cette question du populaire pour glisser vers la musique pop. Récemment, la philosophe Agnès Guéraud a publié un livre à ce sujet, on l'écoute.
Je pense qu'on a un peu tous vécu dans les années 2000 où on a eu tous un sentiment d'éclectisme, c'est-à-dire que aimer de la musique populaire, c'était évidemment pas seulement aimer déjà ce qui passait à la radio, bien sûr, mais aimer des genres très différents. Dans une playlist d'un individu lambda, on pouvait avoir du hip-hop, pas mal de hip-hop d'ailleurs, du rock indé, alternatif, du métal, même certains morceaux de jazz, hein, du jazz psychédélique, par exemple. Enfin, donc cet éclectisme qui était vécu, et par moi et par beaucoup d'autres, a fait que, j'imagine, progressivement, ça élargit un petit peu l'idée de ce qu'on pouvait entendre par pop, et surtout derrière pop, musique populaire. Et les anglo-saxons, ils parlent de popular music d'ailleurs pour évoquer tous ces genres qui ne sont pas seulement de la pop au sens soit de la pop mainstream ou de la pop classique telle qu'on... Ça représente, voilà, dans les années 60, une pop très, voilà, Beach Boysienne ou Beatlesienne, enfin, qui serait comme ça un espèce de paradigme dont on peut pas vraiment sortir avec. Il s'agit de deux grands groupes géniaux qui en fait ont fait des choses extrêmement différentes à l'intérieur de la formule pop. Donc eux-mêmes, ils montrent que dans la pop, il y a beaucoup plus que de la pop au sens restreint du terme, de petites mélodies mignonnes qu'on retient.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Issam Krimi.
Ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas entendu ce morceau, Issam Krimi, mais pourtant, d'une part, c'est le vôtre, Kodaly, sur Post Jazz, et d'autre part, ça fait pas si longtemps, parce que c'est un disque qui sort en 2016, alors votre vie doit être vraiment très 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 remplie, si 3 ans pour vous, longtemps. Ah bon ?
Ah ouais, je crois. Enfin, là, on vient de toucher un sujet, c'est que je suis hyper nul dans ce qui s'est passé dans le passé.
Ok, très bien.
Voilà. Alors, je peux confondre un jour et un an. Hein, donc,
ok, très bien. Parlons du présent et de l'archive qu'on vient d'entendre d'Agnès Guéraud, qui parle des années 2000 comme d'un moment où les playlists personnelles explosent et où on y croise bien plus de choses que les habitudes d'écoute précédentes. Est-ce que vos années 2000 ont aussi ressemblé à ça ? C'était il y a 20 ans, pour vous resituer d'un point de vue temporel. 20 ans, 20 minutes.
Alors, moi, la question là-dessus, c'est que je ne suis pas certain que ce fût si différent au début du 20e. parce que même les grands compositeurs à musique classique, Bartok et compagnie, qui passaient leur temps à aller prendre leur magnétophone et enregistrer des choses, c'est les débuts de l'ethnomusicologie aussi. Quand on sort d'après-guerre, c'est à la fois Miles Davis quand vous parlez, mais c'est aussi Salut les copains.
Mais est-ce qu'à ce point-là, on écoutait par exemple sur les gramophones ou dans les postes de TSF des choses aussi diverses dans les familles, si on éloigne Bartok, si on éloigne des gens pour qui la musique est le fameux bain dont nous parlions tout à l'heure, Issam Krimi. Si on se dit, c'est alors vous et moi, c'est pas pareil, mais on va dire moi et plein d'autres copains. Est-ce que vous pensez qu'on écoute des choses aussi variées au début du XXe ?
Alors, je pense...
Déjà, on écoutait moins de musique, quand même.
Oui, puis je pense que les choses étaient plus cloisonnées. À mon avis, c'est-à-dire que je pense qu'une certaine classe sociale écoutait une certaine musique. Je pense que c'est plus ça. Je pense que là, on vit un monde de liberté tellement grand, tellement explosé, où la question, où ça apporte. Moi, ce que j'estime très positif, de passer d'Aya Nakamura à Ligeti sans problème, mais ça apporte aussi quelque chose. Où là, c'est plus des questionnements et d'ailleurs les plus frileux de la vie se rétractent sur eux-mêmes et deviennent très violents. C'est une liberté et très grande, et comme toutes les libertés, il faut savoir vivre avec. Dès qu'on ouvre des fenêtres, c'est un nouveau vertige. Et donc il peut y avoir des réactions toujours qui sont de dire je vais me confiner là-dedans, et c'est plus protecteur, c'est plus rassurant, et ça se comprend. Moi, j'estime que c'est quelque chose qui me nourrit parce que je me suis aussi construit comme ça. Alors après, pour des particularités, j'étais content de découvrir que le monde était si grand. Donc
pas de vertige, jamais de vertige.
Non.
Quand vous dites finalement, on est dans un monde de liberté d'écoute. À chaque fois qu'on ouvre une fenêtre différente, ça pourrait être un vertige supplémentaire. Vous avez toujours su faire avec ça.
C'est que je me dis je vais y aller. pour qu'on n'y ait pas allé avant. Il y a beaucoup de projets ou beaucoup de choses dans mon esprit où je me dis j'aurais pu les faire 10 ans avant. Je pense que le Gatsby on aurait pu le faire 20 ans avant. Enfin, en vrai dans mon esprit pareil pour le hip-hop symphonique. Maintenant il y a une réalité ici.
Quand vous dites on aurait pu le faire 20 ans avant. Par exemple, hip-hop symphonique, pour les personnes qui ne situent pas très bien, un grand orchestre de la Maison Radio France, des grandes figures émergentes ou historiques du milieu hip-hop en France, secoué, arrangé, Issam Krimi, grande scène de l'Auditorium Radio France, et des concerts. Ok, ça aurait pu se faire il y a 20 ans, et pourquoi ça n'a pas existé ?
Parce que, déjà, un truc très très simple, et ça va rejoindre un peu le propos sur la musique populaire, les milieux musicaux en France ne se mélangent pas. Et ils se sont mélangés de moins en moins avec le temps. Je pense qu'il y a eu un effet, je reste toujours sur le truc de l'après-guerre, qui a un effet là on a explosé, fallait revivre. Chez les musiciens de Claude François, on a quasiment tous les jazzmen de la même époque, jazzmen français. Donc il y a eu quelque chose les choses ont explosé, les technicités sont allées plus loin, l'artisanat de chaque musique aussi est allé plus loin, et chacun s'est cloisonné. Il y a eu quelque chose d'assez récent sur ces milieux se voyaient pas, alors qu'en réalité un musicien d'orchestre peut jouer du hip-hop
et que par ailleurs il l'écoute, éventuellement il allume son poste radio et il peut entendre quand le hip-hop est diffusé sur la radio. Finalement, tout ça est quand même, quand vous dites on aurait pu le faire à 20 ans, peut-être que les ingrédients n'étaient pas là quand même, Issam Krimi.
En France, oui, mais parce que je reste quand même sur une grande différence, c'est-à-dire que moi j'ai un regard très interrogatif sur le rapport à la musique populaire. Et parfois, de manière très radicale, je résume ça en une phrase, la France n'aime pas la musique populaire. Et quand je dis n'aime pas la musique populaire, c'est ce que je décline derrière, c'est-à-dire que on se dit que la musique populaire, c'est une sorte de facilité musicale. parce qu'elle toucherait le plus grand monde, alors que, à mon avis, à mon sens, la toucher le plus grand monde, c'est aussi être en capacité de se poser et de se dire comment j'épouse l'humanité, voilà. Et je pense que
Pas ça comme un nivellement par le bas.
Ah non, ça, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Et puis l'autre chose aussi, c'est que on pense que c'est une sous-musique parce que c'est vrai. Si je prends mon exemple, on vient du conservatoire, on a eu des diplômes au conservatoire. En plus, maintenant, dans le jazz, on a les mêmes cursus que la musique classique. Oui, on écoute bien, on a un bon sens du rythme, voilà. Il y a une envie de dire de « moi, je sais faire tout ça ». Je vais pas la mettre au service de la plèbe. Non, il y a un truc un peu comme ça qui est très partagé normalement par les gens qui font mon cursus.
Mais comme un mépris de classe?
En tout cas, je sais. Alors c'est marrant parce que on peut ne pas appartenir à un milieu social favorisé, mais penser comme ça.
Les classes sociales sont pas toujours rapportées exactement à de l'économie.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, carrément. Mais je précise ça parce que c'est juste pour pas caricaturer. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, il y a une sorte de mépris. Et ce qui est pas du tout la logique anglo-saxonne. Et c'est pour ça que je résume ça en disant la France n'aime pas la musique populaire. C'est parce que la culture anglo-saxonne, la musique populaire, elle est très très présente. Ne serait-ce que pour des raisons en Angleterre, aller chanter à la church le dimanche matin. Enfin, il y a quelque chose où on chante ensemble, on va faire de la musique ensemble. Il y a forcément quelqu'un qui joue, voilà. Nous, on a perdu ça. Alors après, il y a plein de théories, hein, parce que quand on a tranché des têtes, on a arrêté l'église, donc on n'allait plus chanter ensemble. Donc,
mais il y a quand même des petites chorales, puis ça devrait reprendre les petites chorales.
C'est un très beau sujet parce que il y a eu. Il faudrait. Je ne sais pas si France Culture a fait quelque chose là-dessus, mais ça a été les chorales ouvrières. Il y a eu une grande stratégie des syndicalistes ouvriers. Après, ça a été de lancer ce... Et c'est des chorales qui ont disparu. Mais je pense que oui, en effet. Je pense qu'on est passé d'un... Les chansons nous appartenaient à les chansons venaient de haut. Et c'est pour ça que le truc de « Salut les copains », je peux comprendre la critique, sociale du sujet. Mais après, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime énormément dans les artistes qui en sont sortis, notamment Johnny. Mais c'est vrai que on s'approprie pas la musique populaire. Un peu moins, enfin nous est donné par le haut d'un certain côté, et en même temps les gens qui sont dans la musique voilà, on les appelle pas pour aller apporter leur savoir qui est particulier, ce qui n'est pas du tout la logique en Angleterre et aux États-Unis. Un grand artiste populaire américain, quand il va faire un album, il veut le meilleur arrangeur, le meilleur orchestrateur, le meilleur programmateur des synthés, le meilleur des gens qui ont fait soit des années de conservatoire. Enfin, c'est pas la même démarche. Donc c'est aussi voilà notre rapport à la musique populaire. Voilà.
Et au savoir finalement, quand je vous écoute, Issam Krimi, c'est pas tant un rapport à la musique populaire qu'à une manière de garder le savoir dans les mains de certaines et de certains qui en disposent. Pourrait se le transmettre entre eux et ne pas, comme vous le disiez tout à l'heure, en faire don à la plèbe.
Non, mais c'est vrai, c'est là où Internet c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un élève qui est arrivé, je donne un peu de cours de jazz.
Dans mon premier atelier de jazz, c'est toujours ça?
Oui, il y a ça. Oui, voilà. Et là, j'ai ouvert une classe de piano, j'ai peu d'élèves, mais j'ai un élève qui est arrivé en début d'année, qui est aux alentours de la vingtaine, un peu moins, et il me dit, j'ai jamais fait de piano de ma vie. Ça fait un an que j'en fais. J'ai envie de faire de la musique. Ok, d'accord. Et il est arrivé, puis il m'a joué une étude de Chopin. la technique de piano, elle a un an, mais il m'a quand même joué la Révolutionnaire, qui est techniquement, pour ceux qui la connaissent, un peu difficile. Puis là, je l'ai eu pendant toute l'année. Et il a passé son temps. Il n'y a pas un tutoriel sur YouTube qui n'a pas maté 10 000 fois. Il a lu tous les traités d'harmonie que je lui ai dit de lire, tous les CD que il a fait en un an ce que les trois quarts des élèves normaux dans un conservatoire font en 5-6 ans, voilà, en utilisant cet outil de partage de savoir, parce que maintenant quand quelqu'un sait faire quelque chose, il prend son iPhone ou la caméra de son ordi, il se met devant et il explique, alors l'accord de do majeur je le fais comme ça, je le renverse comme ça, et c'est incroyable.
C'est généreux, en tout cas. Issam Krimi, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas la musique qui vous nourrit, il y a aussi la littérature, et on va écouter Hélène Cixous parler de James Joyce.
Personne n'a fait un geste aussi musical. Et pour utiliser un autre épithète qu'il utilise lui-même, est aussi parfumé que Joyce. Il tire de la langue tous les trésors qui étaient enfouis et qui sont réenfouis parce que on a refermé. Hein. C'est-à-dire que seul Joyce a conquis finalement les mondes, tous les mondes de la langue. Et puis là, je crois que on régresse. Ce que Joyce a avancé n'a plus le même cours. Et on a vitalement besoin de traduction. Avec Joyce, c'est paroxystique, puisqu'il est lui-même le paroxysme de la langue anglaise, en tant que libérant toutes les virtualités d'étrangeté de la langue. Mais c'est infini. Bon. Et par ailleurs, je vois que les traducteurs ont cherché à regagner, ce qui est héroïque en français, une part justement à la fois de la dimension ludique mais de la musicalité.
2004, Hélène Cixous qui parle de James Joyce et de la musicalité. Là encore, c'est pas complètement un hasard, Issam Krimi, qu'on aille chercher James Joyce.
Vous êtes bien renseigné.
Mais ce qui nous intéresse, c'est de vous faire parler toujours de musique, même si la littérature et les autres arts vous nourrissent. Là, elle touche quelque chose d'intéressant et de tellement important pour Joyce, qui est justement cette rythmique, cette mise en musique. Si on était un peu comme ça, cavalier, on dirait son flow.
Ah oui,
en fait.
Oui. Et les reliefs dans son flow. C'est-à-dire que, le Ulysse de James Joyce, c'est un livre qui, ouais, c'est un livre très 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 marquant pour moi, parce que il y a une rythmique, il y a des paysages. Enfin, si on reste dans la musique, il y a des paysages sonores qui s'enchaînent, qui ont l'air différents, mais qui sont sur la même histoire. En lisant James Joyce, j'ai eu vraiment l'impression d'entendre des musiques contemporaines que j'affectionne, hein, du côté de du Tiglioli Ghetti. J'ai lu Joyce comme ça. Enfin, c'est tout un monde qui reste quand même très longtemps dans l'esprit et qui est que j'affectionne particulièrement. Ouais.
Alors de Ulysse, on va passer à Achille parce que la mort d'Achille, c'est le texte de Wajdi Mouawad qui sera mis en onde et en musique et en radio. Issam Krimi, et c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler en ce moment en vue du Festival d'Avignon, jeudi 14 et 15 juillet, dans la cour du Musée Calvet, pour celles et ceux qui s'y rendront. Précisément, ça veut dire que vous recevez le texte de Wajdi Mouawad, qui est encore en travail mais qui est quand même abouti. Comment est-ce que la musique, puisque c'est votre place dans cette production radio, se compose à partir de ça?
En écoutant beaucoup. Je pense avoir le même mécanisme aussi quand je fais de la musique à l'image pour des films documentaires, là, que je fais beaucoup en ce moment. C'est surtout l'écoute. Et que l'écoute va m'apporter. Il faut qu'à un moment donné, plus j'écoute, plus se définisse quelque chose de très simple, qui va être la place de la musique, va être celle-là. Je vais pas sur des projets différents, soit celui de Wajdi ou ce qui était avant Gatsby, avoir la même démarche dans ma manière de poser la musique. Je vais pas être sur les fameuses théories. C'est le personnage supplémentaire de la pièce ou voilà. C'est plutôt je veux que l'écrit, en tout cas dans le cas d'Achille, génère chez moi la place que la musique va prendre. Là, en l'occurrence, il y a une écriture particulière chez Wajdi. Il y a une fluidité qui, d'un certain côté, est aussi une écriture qui laisse pas tellement de place à la musique, et donc c'est ça aussi, de savoir s'intégrer là-dedans. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les images sont claires, c'est-à-dire que les images sont claires, et Wajdi n'a pas peur aussi de dire des choses. Enfin, si on doit montrer un couteau qui s'enfonce dans le ventre et que le sang dégouline, et voilà, on ne dira pas il avait pris son arme de poing et tout de rouge vêtu, son t-shirt était. Enfin, non, on dira pas. Il va l'expliquer. Ça fait que la musique, par exemple, sur ce type de scène, si émotionnellement je suis dans le même registre, là, on tombe dans une caricature, sur le résultat final. Donc, c'est essayer de trouver, un sentiment. Qui accompagne, qui rentre dedans, qui sera tantôt illustratif, ou dans d'autres cas, c'est dire ce qui n'est pas dit aussi. Ça, par exemple, c'est un procédé qu'on a utilisé dans Gatsby, parce qu'on a fait quand même une version, on a retiré quand même beaucoup de personnages importants, comme c'est une adaptation. On s'est concentré sur les personnages principaux, mais par rapport au livre original, il y a des personnages qui ont disparu. Et c'est aussi une manière, la musique là pour le coup,
de rendre cette matière manquante au texte, quoi.
Exactement, voilà. Et ça permet ça. Donc c'est pas la même chose. Là avec le texte de Wajdi, j'ai pas besoin de, par exemple, d'être dans ce registre là. Mais par contre, c'est d'apporter une justesse avec ce qui est écrit et puis jouer sur un équilibre dans la longueur de la pièce, en fait. Savoir dire peut-être un peu plus, mais à un certain moment, c'est très très différent là, le positionnement.
Bon, à suivre alors. Ouais. Petit souvenir de Gatsby magnifique.
Écoutez, que pensez-vous de moi là, franchement, cher vieux? Bon, je vais vous apprendre 2-3 choses que vous me connaissiez mieux. Je ne veux pas que vous ayez une fausse idée de moi à travers tout ce qu'on raconte. Ok, je vais vous dire la vérité de Dieu. Je suis le descendant de gens extrêmement riches du Middle West, tous morts aujourd'hui. J'ai grandi en Amérique, mais j'ai fait mes études à Oxford, comme toute ma famille. J'ai donc hérité d'une grosse fortune, car plus aucun n'est en vie, et j'ai vécu ensuite comme un jeune nabab à travers toutes les capitales d'Europe. Paris, Rome, Venise, collectionnant les pierres précieuses, les rubis en priorité. Chassant le gros gibier et peignant un peu, mais uniquement pour mon plaisir. Et essayant d'oublier quelque chose d'infiniment triste qui m'était arrivé auparavant. Et puis la guerre est arrivée, cher vieux. Un soulagement pour moi. J'ai tout fait pour être tué, mais ma vie semblait comme protégée par un charme. J'avais le grade de capitaine. Dans la forêt d'Argonne, j'ai poussé 2 détachements d'artillerie très haut sur les lignes. Nos obus avaient creusé de si profonds entonnoirs que l'infanterie n'arrivait même plus à se déployer. Nous avons tenu 2 jours et 2 nuits, 130 hommes, 16 fusils mitrailleurs. Et quand les fantassins nous ont enfin rejoints, ils ont identifié sur cet entassement de cadavres les insignes de 3 divisions allemandes. J'ai été promu commandant et décoré par tous les états-majors alliés, y compris celui du Monténégro. Oh, tenez, voici la médaille du Monténégro. Retournez là.
C'est Sofiane, dans Gatsby le Magnifique, une production France Culture. Et Sam Krimi, là aussi, on est à la croisée des chemins, puisque création Festival d'Avignon... spectacle, quoi. Les gens viennent voir d'autres gens sur la scène, dire des textes, jouer de la musique, dans la cour du Musée Calvet, mais en même temps, radio, puisque ça devient une fiction radiophonique, qu'on peut podcaster maintenant et réécouter. Si bien que, même en fait, dans les projets que vous choisissez comme celui-ci, vous rajoutez de l'hybridation à de l'hybridation, c'est-à-dire que c'est déjà une certaine musique qui rencontre un certain texte, qui rencontre des interprètes de la comédie française, qui rencontre Sofiane, qui est plutôt identifiée comme rappeur, maintenant on sait plus trop, un peu tôt, et en plus ça devient un objet qui appartient à plusieurs choses en fait. Ça c'est le futur, quoi.
Alors je sais pas si c'est le futur, mais en tout cas c'est mon désir présent. Mais plus simplement, quand on crée, il y a la question aussi de, ce qu'on crée est lié aussi à comment on le diffuse. Et que
on est en plein dedans en ce moment quand même.
et qu'il y a quelque chose d'assez drôle dans l'histoire de la musique, c'est que la musique a toujours été liée et elle s'est fait même façonner par cette question-là. Souvent, je prends cet exemple, Charlie Parker joue toute la nuit, il joue 3-4 heures, ça lui évite de se faire tabasser par les flics quand il sort. Et puis il y a le 78 tours, et à un moment il y a un gars qui lui dit « Bah écoute, tu peux payer ton loyer un peu à bouffer, ce que tu m'as fait en 3 heures, tu me le fais en 3 minutes ». Donc il y a le fameux thème impro thème du jazz, hein, qui n'était pas forcément le standard classique, et on commence à être là-dessus. Le 78 tours devient un effet commercial et industriel important, on passe au 33, au 40, la musique devient plus longue, il y a la naissance du CD, donc le concept d'album arrive, il y a les images qui arrivent, donc on est sur les captations live, enfin...
Les clips.
Voilà, les clips, exactement, MTV, Thriller sur le 20h de TF1, enfin, il y a tout ça, et aujourd'hui, donc il y a la question du streaming, mais ce que je crois, en fait, c'est la musique aussi, elle a ces chemins d'émancipation et de créativité nouvelles, elles sont dans ces diffusions nouvelles aussi. Je me suis toujours posé la question de la diffusion. Enfin, par exemple, quand je faisais du jazz, c'est vrai que c'est un milieu qui a, en plus, même a du mal avec l'enregistrement, donc c'est conceptuel. Déjà, à l'époque, je parlais de vidéo quand j'étais sur mes albums de jazz. J'avais commencé à travailler aussi avec des plasticiens, on commençait à être, c'est la fameuse, tous les débuts, c'est le vidging, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je me suis toujours,
Donc, petite incise, hein, vidging, c'est, envoyer de la musique et des images vidéo et appliquer des techniques de mixage en direct à ces deux médiums.
Exactement.
Pas mal, hein ?
Ouais, bravo. Mais donc voilà, donc je pense que la musique ne s'est jamais diffusée par elle-même très simplement quand elle a pris une dimension populaire. Même l'image. Il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est de dire oui, je reviens sur le débat de la musique populaire. Oui, la musique populaire, c'est beaucoup l'image et tout, voilà. Mais on peut parler de tous ces tableaux ou de tous ces dessins de compositeurs, de grands compositeurs classiques à poser devant le piano. Voilà, quand on est au XXe siècle, on pose plus devant le piano, on pose devant sa partition qui est très compliquée à lire. Il y a toujours eu un rapport à l'image, c'est faux. C'est-à-dire que les Pink Floyd, Radiohead, David Bowie, Miles Davis, les pochettes d'albums de Miles Davis, elles sont sublimes. Donc c'est pas sale l'image. La vraie question sur l'image, c'est est-ce que, enfin, une image qui veut rien dire avec la musique qui est proposée, bon bah voilà, il y a un mensonge artistique dedans qui peut être dérangeant, mais
en fait l'idée n'est pas de formuler des choses qui vaudraient pour tout et tout le temps. L'idée est de toujours trouver des consistances, ça me crémit si je vous suis, c'est-à-dire des images, du son, un spectacle en direct, éventuellement une rediffusion hertzienne ou sur le web, tout ça pourquoi pas, mais pourvu que les choses soient bonnes.
C'est... voilà. Non, mais c'est le propos, c'est mon envie, mais même ce qui est rigolo, par exemple avec la construction de Gatsby, quand on a commencé à être dessus avec Alexandre Planck et Pauline Timonier qui a fait l'adaptation, on a passé quand même des mois sans se dire que Gatsby serait un rappeur. C'est-à-dire qu'on est parti sur le projet avec l'idée d'essayer de voilà, et c'est venu après parce qu'on était dedans, parce que notre idée prenait forme, à en être arrivé là. Donc c'est
comment vous êtes arrivé à Fianso?
Bah en fait, quand le personnage de Gatsby s'est vraiment cristallisé, il y a eu cette idée du rappeur, et là, à ce moment-là, beaucoup cogité. Alors, on pense à des noms plus évidents au début, et puis c'est venu un jour, je dîne avec un pote, et je vais le dire parce que c'est amusant, mais pour montrer aussi ça, le pote, la première question qu'il me pose, je lui explique, je lui dis, ouais, voilà, je suis sur un truc avec France Culture, Festival d'Avignon.
Il y a plein d'ingrédients, Fitzgerald d'un côté. Voilà. La radio de l'autre.
Et il me dit, de manière très cash, il me dit, les Noirs et les Arabes, ça dérange pas? Je le regarde, je lui dis...
Bah, excellente question, non?
Non, mais je lui dis, bah non. Il me dit, mais pourquoi t'en parles pas à Sofiane? Et là, j'y ai pensé, mais toute la nuit et le lendemain matin, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est la meilleure idée. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai appelé Sofiane.
Vous allez être assez loin avec Wajdi Mouawad et Achille cet été quand même.
On va être, alors on est sur un autre sujet, mais après, moi, ce que j'aime bien dans Wajdi aussi, on parlait de l'humain au début sur la, c'est que, ouais, je dis, il a quelque chose qui est très... il arrive à faire peut-être... Enfin, moi, quelque chose... je vais revenir sur... Pourquoi j'aime bien le cinéma américain, même les blockbusters, c'est parce que déjà il y a toujours un sens de l'écriture qui est très poussé et qui a toujours un sens de l'humain. Qui on a alors dans les bons côtés et les mauvais côtés. Et Wajdi là-dessus, il a pareil, il a pas le même problème. Alors on n'est pas du tout dans le même registre.
Non, mais on y sera quand même parce que finalement, en fait, c'est la littérature qui a toujours le sens de l'humain.
Oui, mais
et les héros et la mythologie.
Oui, oui, les héros, la mythologie. Mais après, il y a quand même une littérature plus proche de nous qui le perd un peu, qui est distanciée, qui est revenue à l'humain avec ce truc de l'autofiction. Parce qu'en fait, on avait oublié de regarder les autres, donc on s'est dit, je vais me re-regarder moi. Et voilà. Non, mais c'est, mais il y a quand même quelques. Enfin, moi, j'ai toujours été un grand fan de mythologie. On pourrait parler de aussi. Enfin, c'est un autre sujet sur Ulysse, mais moi, les métamorphoses de vide, c'est aussi un autre sujet un peu important. Mais il y a quelque chose, c'est chez Wajdi, où c'est vrai que dans le médium théâtre, dans son écriture théâtrale et avec sa sensibilité à lui.
Il fait pas semblant de s'en approcher, quoi.
Non, mais c'est ça. Oui, il fait pas semblant. Ça, c'est le bon mot. Ça ne fait pas semblant. Ouais.
Ok, toi t'es barrière, le métal fait sonner les portillons. Suis pas ma danse et les mortuaires, j'suis dans transit aéroportuaire. J'suis dans voiture avec portugaise, rebeu hindou et jamaïcaine. On trafique la dope, puis trafique les vues. Même t'es seul en attaque, on te fait pas la passe. Quand on quitte le club, renoie tout tes buts. Si on shoot le gardien, n'arrête pas la balle. Ok, elle veut passer la nuit, je suis ok. Elle veut rester la vie, je dis no. 20 000 en cas, je dis ouais. Est-ce que je m'attache, baby, no. Réside de H, papi, ouais. Gros, j'ai la dalle comme les Kosovars. Je leur inspire la peur comme les Soviétiques. Leur carrière de merde est hypothétique. On s'emploie uniquement pour décrocher titre. Et j'ai toujours un noir qui rencontre un noir. Tu peux nous jeter l'air, jeter tous les sorts. On s'en remet à Dieu, on prie tous les soirs. On a mis nos pieds presque dans tous les ports. Les balles de calage traversent tous les corps. Paris est en feu, Paris démuni. Le soleil ne brille plus, pourtant c'est midi. Faire le million d'euros, c'est ce qu'on s'était dit. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le papiller. Sous le teddy, j'ai caché le couteau papillon. Tout est noir, tête mort sur le pavillon. Dans mon cerveau, tout est black. C'était psycho sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Le diable la cuisine comme du crack. Ma souffrance vient du ghetto. Mes tourments viennent du ghetto. Qui pour nous menacer. Sur le trône on est assis. Dans mon cerveau tout est black. C'était psycho sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Le diable la cuisine comme du crack. Ma souffrance vient du ghetto. Mes tourments viennent du ghetto. Qui pour nous menacer. Sur le trône on est assis. Un client à l'autre bout du téléphone me demande à quelle heure le produit vient. Les gros pour un gramme, ils en font des tonnes. À croire que c'est des revendeurs boliviens. J'ai perdu ma mère et j'ai mal au cœur. J'ai porté ma croix comme un templier. Détermination, frère, c'est mon moteur. À part Dieu, personne peut me faire plier. Et j'oublierai jamais toutes les colonies. Le mal que la France a fait à l'Afrique. Mon père, je suis garant de ses économies. Quitte à avoir du sang sur mon tablier. Et j'ai bien plus d'ennemis que j'ai d'alliés. Je veux pas mourir dans l'avion comme Alia. J'ai des potes qui suivent la Torah ou la Bible. Et d'autres qui suivent les règles de la charia. En bas de ma tour, on est tous ensemble. On s'en bat les reins de tes préjugés. Et si un de nous saigne, on est tous ensemble. Je m'en 4 mecs sur 10 ont été jugés. Mais crois-moi, mon pote, on n'est pas fiers. On regrette le passé comme la Bavière. Le code pénal, on brûle sur les gravillons. On défie même les lois de la gravité. Mon cœur est en feu sur les canadaires. Ils ont violé mon peuple jusqu'à Pointe-à-Pitre. Je veux pas dire à mon fils, t'auras pas ta père. Je veux pas dire à ma fille, papa n'a pas de fric. Nous taffons. La rage qui nous porte vient des bas-fonds. On roule dans la ville, musique à fond. Le sol de leur shot, c'est nos plafonds. Amène le meilleur, tes poulains en fit. Un faux pas de sa part, je lui éclate sa mère. Négro, c'est réel quand on parle en fric. Je suis parti en boîte, j'ai pris 4 salaires. Et j'en reviens pas, putain, maman. Maintenant, t'es plus là pour partager. Et comme dirait mon ami de Marseille, le compte était mort, putain, madré. Dans mon cerveau, toutes tes plaques. Si t'es psycho sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Le diable a cuisine comme du crack. Ma souffrance vient du ghetto. Mes tourments viennent du ghetto. Qui pour nous menacer? Sur le trône on est assis. Dans mon cerveau tout est black. C'est des psychos sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Le diable a cuisine comme du crack. Ma souffrance vient du ghetto. Mes tourments viennent du ghetto. Qui pour nous menacer? Sur le trône on est assis. Dans mon cerveau tout est plaque. C'est des échos sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Qui pour nous menacer? Sur le trône on est assis.
Merci.
Hey, ça fait plaisir. Vous allez bien ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour cet orchestre qui est magnifique, magnifique? Merci pour eux. Bah ouais, comme ils n'ont pas de micro, ils ne peuvent pas parler, donc je suis un peu leur porte-parole, c'est ça.
Et c'est assez inhabituel. Que Esprit Noir soit le porte-parole de plein de musiciens d'un grand orchestre. Issam Krimi, vous avez un grand sourire en écoutant cet extrait d'Hip Hop Symphonique 3. Il n'avait pas la tâche facile, c'est lui qui ouvrait le bal. Moi, je trouve que c'est lui qui remporte la mise, vraiment. J'aime énormément cette version. Et il m'a soufflé et ému, et il est ému aussi.
Ouais.
On sent à la fin, quand il dit « ça fait plaisir », que c'est extrêmement sincère. Alors probablement, ça lui fait plaisir comme n'importe quel bon morceau, bien exécuté devant un public. N'empêche que, pour moi, ce n'est pas rien. Tout à l'heure, vous disiez, votre copain vous demande « ça ne te dérange pas les Noirs et les Arabes ?» Pour moi, ce n'est pas rien de voir Sniper, de voir Esprit Noir, de voir des Noirs et des Arabes français sur la scène du Grand Auditorium, dans la grande maison de Radio France, avec le grand orchestre de Radio France. Vous disiez que la musique ne se fait pas en dehors de la société. Là, il se passe quelque chose qui a à voir avec la société. Je ne veux pas enlever toute la dimension musicale, et je sais que vous allez commencer par me répondre par ça.
J'ai compris. Non, mais je pense que c'est totalement vrai. Et comme c'est autant totalement vrai que... ça aurait été raté, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas eu de valeur si musicalement on n'avait pas été exigeant. En fait, c'est toujours ça le sujet.
Ce qu'on disait tout à l'heure, les bonnes choses, quoi.
Oui. Et surtout, c'est réel, c'est pas rien. Alors bon, avec Esprit, enfin, on se connaît depuis longtemps, il y a une amitié avant le hip-hop symphonique, donc c'est particulier. Puis moi, j'étais très heureux qu'il ouvre parce que, enfin, je connais aussi sa sensibilité personnelle et je sais que pour lui, comme tous les autres, même les plus, on va dire, les plus thug d'entre eux, il y a une émotion qui est quand même assez incroyable quand ils ont l'orchestre philharmonique de Radio France derrière et les musiciens d'Ice Cream, enfin, quand il y a tout ça, je vois bien que c'est pas rien pour eux, je le sens, et même un truc tout bête, les échanges qu'on a après, voilà, je sais qu'ils sont particuliers, et moi, j'en retire même à titre personnel une émotion, une fierté, voilà, que je garde, qui m'est précieuse. Après, j'ai ce truc très pragmatique, qui est que, enfin, c'est pour moi, c'est quelque chose de très doux, on va dire ça, c'est de très, mais il faut le maintenir, et il faut toujours être là-dedans, il faut toujours être sur la raison musicale et artistique, parce que pour revenir ce que la dimension non sociale de la musique, ça reste, c'est ça le on va dire le truc le plus puissant. que certains même appelleraient ça Dieu, que d'autres diraient autre chose, ou voilà, moi j'appelle ça l'humain, enfin une certaine profondeur humaine liée à nos aspects sensibles, quoi. Mais donc oui, c'est, je mentirais à dire que c'est que la résonance que vous lui donnez est, ne participerait pas au projet, quoi.
Mais même si on se déplace un tout petit peu et si on parle de ce très bon batteur, toujours sur la même scène, toujours avec ce grand orchestre, dans sa cabine de plexiglas, parce qu'il n'y a pas de batterie dans les orchestres, en fait, normalement.
Oui, et que dans une salle comme celle-là, on ne met pas de batterie. Oui.
Et donc ça aussi, c'est une façon de, voilà, de faire entrer des mondes dans d'autres mondes, en fait.
Ah bah. Un truc, en parlant de la batterie, même parler de The Ice Cream, donc qui est le groupe rythmique, donc qui est mon groupe que j'accompagne. Quand j'ai commencé à faire, quand j'ai switché du jazz vers le monde du hip-hop et que j'ai commencé à faire un groupe de rap instrumental qui joue, j'ai quand même joué avec quand même des musiciens de jazz merveilleux, qui le sont toujours d'ailleurs. Et je sais que ils ne jouent pas le rap, ils ne jouent pas le hip-hop, et que c'est une autre culture. Et moi-même, à un moment donné, je me suis posé, j'avais dit en rigolant, j'ai dit, est-ce que je peux pas prendre au moins le basse-batterie, je vais le chercher à Londres, l'Eurostar, c'est pas cher, j'ai essayé de vendre ça ici. On m'a dit, dans Radio France, il y a France. J'ai dit, ok, bon, faut que je fasse un effort supplémentaire. Et je me suis dit, il faut que j'aille là où je ne vais pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'oublie les clubs de jazz, il faut que j'oublie les conservatoires de jazz, il faut que j'oublie les festivals de jazz, et il faut que j'aille chercher ailleurs. Qui, à un moment, prend sa batterie, écoute Dre, Snoop, après Drake, Kanye, Kendrick Lamar, et qui se dit, bah tiens, je vais le reproduire, et voilà. Et j'ai une partie de mon équipe, The Ice Cream, que j'ai quand même trouvé à base de Facebook et YouTube, et j'ai découvert le monde du gospel. Donc il y a un monde du gospel en France avec des musiciens mais magnifiques, et j'ai constitué mon groupe comme ça. La moitié de The Ice Cream vient du gospel, elle ne sait pas lire la musique du tout, et l'autre moitié vient du jazz. Et c'est ce mélange.
Tu mélanges un peu, ça fait du hip hop.
Voilà. Et c'est ça. Et c'est à dire que la partie qui ne sait pas lire a une oreille, un sens du rythme incroyable, et suivent grâce à ça, alors que je ne demanderais pas à un musicien d'orchestre d'improviser. Donc voilà, et ils sont dans la même salle, ils sont dans le même projet, ils sont sur une même dynamique, et ça, pour le coup, là encore, c'est quelque chose, oui, qui émeut quand on joue, quoi.
On vous retrouve pour l'adaptation plus tard des Métamorphoses d'Ovide, Sam Crimi. On fait comme ça.
Ça, c'est un chantier particulier.
En attendant, ce sera La mort d'Achille, texte de Wajdi Mouawad, mis en musique par vous donc, et en onde par Alexandre Planck, avec les Fictions de France Culture les 14 et 15 juillet dans la cour du Musée Calvet au Festival d'Avignon, j'imagine ensuite sur l'antenne de France Culture.
Bah,
podcast.
Je crois que même, alors si je ne me trompe pas, je crois qu'on a un Facebook Live le deuxième soir.
Ah bon, bah voilà. Tout de suite alors. Merci beaucoup.
Modernité.
À la prise de son ce soir, c'était Pierrick Monsigny. À la réalisation, Lise-Marie Barret. Un grand merci à Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Romain de Bec de Lièvre. C'est ma bande. Ils font parler temps qui court tous les jours. Dans un instant, le journal de France Culture, 22h. Et quand vous voulez, franceculture.fr. À la page de Parler temps qui court, le lien vers les archives et vers les musiques. À demain. Used to date a blonde. You used to hit it raw. Cause she was and you are madly involved, madly involved. Hitting stones in glass homes. You're smoking stones in abandoned homes. You hit them stones and broke your home. Crack, rock, crack, rock. Crack, rock, crack, rock. Hitting stones in glass homes. You're smoking stones in abandoned homes.
fits in stars and broke your heart. Ooh, ooh. Crack, rock, crack, rock. Crack, rock, crack, rock. You're shucking and jiving, stealing and robbing to get the fixing that you're itching for. Your family stopped inviting you to things, won't let you hold the infant. You used to get a little up from time to time, but the freaks ain't trying to sleep with cracky. It's in stones and glass homes. You're smoking stones in abandoned home. You hit them stones and you broke your home. Crack rock, crack rock, crack rock. Crooked cop, that cap, how much dope can you push to me? Crooked cop, that cap, no good for community. Fucking picket shots, 300 men will search for me. My brother get popped, and don't no one hear the sound. Don't no one hear the rounds. Ooh, sound. Don't no one hear the shouts. Ooh, shouts. Don't no one hear the sound. Don't no one disturb the peace for riot. Don't no one disrupt Nirvana. Don't no one wanna blow the high. Crack rock. Ooh. Crack rock. Ooh. Crack rock. How you feeling, girl? Ooh. How's the gutter doing?
Crack rock.